Pour ce premier culte de l'année nouvelle, bienvenue à vous tous. Voici des temps nouveaux, où chacun est reconnu tel qu'il est et accueilli sans condition, où nos chemins d'humanité sont éclairés de grâce et de paix, quelle que soit leur origine, leur durée, leur sinuosité. Voici les temps derniers, où rien ne peut nous séparer de l'amour que nous manifeste celui dont le souffle vibre en nous et entre nous, celui dont la parole crée et recrée le monde et l'humanité, celui dont le Christ est bonne nouvelle pour tous. Je vous invite à prendre le premier des chants spontanés de la liturgie que vous trouvez sur la double feuille qui vous a été remise dans les cantiques. Sur tous les peuples de la nuit, nous nous levons. Restons debout pour le temps de la louange. Éternel, ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, quand la violence barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ne ressemble à rien. Nom d'avenir quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Amen. Et nous poursuivrons la louange avec au chant du psaume 33, les strophes 1, 2, 4 et 5, au psaume 33, réjouis-toi, peuple fidèle. Prenez place. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, que je vous invite à entendre une expression de la volonté de Dieu pour nos vies. Au chapitre 60, les versets 1 à 5. Lève-toi et brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Nous nous rassemblons, nous nous recueillons en nous et les uns avec les autres. Nous entrons dans la prière et nous nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Éternel notre Dieu, il nous arrive d'hésiter parce que nous avons de la peine à percevoir la lumière et l'obscurité nous paralyse. Il nous arrive d'être faibles car nous avons de la peine à percevoir la vérité et l'absurdité nous décourage. Il nous arrive d'être atterrés, car nous avons de la peine à percevoir le sens de la vie, et le manque d'espérance nous écrase. Nous t'en prions, notre Dieu, que notre chemin ne se perde pas dans l'indifférence et dans l'oubli. Nous t'en prions, notre Dieu, donne-nous une parole et de la lumière pour le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que chacun écoute Une présence monte en toi. Elle est ta force. Elle est ton gardien. Elle est ta vie. En même temps que toi, elle s'éveille dans ta demeure. Elle t'accompagne quand tu as mal. Elle pardonne quand on te juge. Elle te considère avec bonté quand personne ne te remarque. Elle persévère quand tu crois que rien ne vaut la peine. Elle écoute le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Une présence monte en toi et tu vivras. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 166. Ô viens vers nous, Emmanuel. Nous lirons aujourd'hui un des textes proposés à la méditation de l'ensemble des églises, celui de l'Évangile selon Matthieu. Mais avant de le lire, de l'entendre, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, car sur le chemin de notre foi, de notre vie, ton amour nous précède toujours. Donne-nous d'avancer joyeusement, par ton Esprit Saint, sur le chemin de l'écoute et de la compréhension de ta parole, en te rendant grâce pour sa lumière qui éclaire nos pas. Amen. Nous lirons donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue dans Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Chers amis, s'il est des personnages des évangiles ayant inspiré les artistes bien au-delà de l'ampleur de leur présence dans des textes bibliques, eh bien ce sont bien les mages. Seul Matthieu les met en scène en quelques versets, mais quelle postérité ! Des peintures, des statues, de la musique, des romans, des poèmes, des chansons. Leur renommée est immense à travers les siècles. Alors, mettons-nous tout de suite d'accord, ils ne sont pas trois. Matthieu ne les compte pas, et d'ailleurs, il n'aurait certainement pas choisi le chiffre 3, qui est le chiffre divin. Les mages sont devenus trois, peut-être parce qu'il y avait trois cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens, ou peut-être parce que dans l'Antiquité, seuls trois continents sont connus, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et les mages deviennent alors les représentants de l'ensemble de l'humanité. Ils ne sont pas non plus nommés. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle qu'ils deviendront Gaspard, Melchior et Balthazar. Et c'est encore plus tard, au 13e siècle, qu'un chroniqueur de la vie des saints, Jacques de Voragine, écrit dans son ouvrage qui s'appelle « La légende dorée », il est décrit le vieux Melchior, le plus âgé, qui offre l'or, le tout jeune Gaspard et Balthazar. Et puis, ils ne sont pas rois. Même si, dès le IIe siècle, ils ont été comparés aux rois de Tarsis, des îles, de Saba, de Séba, qui sont évoqués dans le psaume 72 et qui offrent des présents au roi d'Israël. Au début de son évangile, Matthieu ouvre la généalogie qui inscrit Jésus comme fils de David, vous vous en souvenez peut-être, à des femmes, des étrangères, des audacieuses, des passeuses de vie. Et un petit peu après, dans notre texte d'aujourd'hui, Matthieu ouvre, il ouvre une route d'Orient, c'est-à-dire la route d'où vient la lumière, pour amener des mages célébrer la naissance du roi des Juifs, disent-ils eux, alors que Matthieu a bien écrit du Christ. Cette naissance n'intervient pas dans leur pays, ce sont des étrangers qui ont une autre culture. Ils ont un autre roi que celui qui siège à Jérusalem, et ce Christ n'est pas expressément envoyé par leur propre Dieu. Ces mages sont des savants d'une science qui se conjugue toujours avec une religion. À l'époque, peut-être le culte de Mithra, peut-être le culte d'Ahura Mazda, un dieu de lumière. Les mages sont des astronomes, des astrologues, et leur science est extrêmement ancienne, aussi ancienne que la culture mésopotamienne. Ce sont des hommes de savoir et d'influence qui conseillent les rois et les puissants. Et c'est ainsi, en amenant ces mages venus d'Orient, c'est ainsi que l'évangéliste Matthieu est le témoin d'un évangile sans frontières et sans a priori. L'évangile aux dimensions universelles. Et Matthieu l'inscrit au début de son récit, et c'est de la même manière qu'il terminera l'évangile au chapitre 28 avec toutes les nations. Bien sûr, cette universalité n'est pas seulement question de géographie. Elle implique les langues, les cultures, les manières de vivre, les spiritualités, l'extrême diversité des chemins d'existence. Matthieu, qui est très attaché et très respectueux du judaïsme, n'en est pas moins remarquablement libre et ne cesse d'ouvrir des portes, des routes, des passages, d'ouvrir aussi des langages d'antiques récits légendaires, des passages, d'ouvrir la foi dans la conviction essentielle que l'Évangile peut rejoindre et accueillir chacun sans condition et là où il est, ce qui est tout de même le meilleur moyen de le toucher et de lui parler. L'advenue du Christ déborde largement le cadre religieux et particulièrement le cadre de la religion qui se réclame de lui. Le premier évangile du Nouveau Testament commence par décoller radicalement l'évangile, la bonne nouvelle, des formes et traditions qui prétendraient la contenir. Il invite au croisement, aux rencontres, au dialogue sans préjugés. Il élargit, il assouplit, il aère. Plus, il ne cesse de créer des courants d'air. Avec les artistes qui cherchent et s'expriment en paroles, en notes, en couleurs, en formes, en nuances. Avec les scientifiques qui explorent les mystères et les merveilles de ce que contient l'univers, du plus infime au plus infini. Avec les aventuriers qui conjuguent l'effort à l'immensité des océans, des montagnes, des déserts au désert. Avec les philosophes qui arpentent les questions et les pensées, les idées, et avec d'autres encore. Pour Matthieu, ce sont des mages qui apprennent les premiers la naissance du Christ, et ce sont des mages qui viennent l'annoncer à Jérusalem. Cette hospitalité évangélique que Matthieu déploie dès le commencement de son récit se traduit dans les deux dimensions de l'accueil et de l'envoi, recevoir et aller vers, l'une et l'autre engageant une dynamique intérieure, spirituelle, existentielle, dont la métaphore du chemin ou de la route rend également compte. D'ailleurs, les premiers chrétiens, avant que ce nom soit posé sur eux, étaient désignés, se désignaient comme ceux du chemin, ceux de la voie, avec un E. Matthieu met donc des mages étrangers et païens en route jusqu'à Jérusalem pour annoncer la naissance du roi des Juifs. À Jérusalem, la capitale, où personne ne bouge. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? À la question des mages répond le trouble du roi Hérode et de la ville de Jérusalem. Mais un trouble peut devenir un mouvement ou pas. Un trouble peut mettre en route ou devenir une occasion de renforcer sa stabilité. Que rien ne change. Un trouble, un bouleversement, une agitation, cela peut mobiliser pour un déplacement ou retomber sans effet ou provoquer une réaction contre ce qui l'a fait naître. Ainsi, les mages qui ont vu l'étoile et ont interprété son message se sont mis en route. Et c'est un long voyage. C'est toujours un long voyage pour aller vers l'étranger. Mais c'est un voyage dans lequel on s'engage quand on croit qu'il y a là, dans l'étranger, un être précieux. Les habitants de Jérusalem, les grands prêtres et les scribes entendent la nouvelle, mais n'en tirent aucune conséquence. Une stupéfiante torpeur d'esprit dont nous faisons toujours l'expérience qu'elle peut être provoquée par une idéologie ou par un quotidien trop pesant, ou par la peur de briser un précaire et instable équilibre. Hérode, lui, le roi, manigance pour conserver le pouvoir fragile que lui a concédé l'Empire romain et rester roi à Jérusalem à n'importe quel prix. C'est comme s'il n'y avait à Jérusalem, la ville de David, aucune attente et aucune espérance. Alors, Matthieu, bien sûr, ne décrit pas l'atmosphère de Jérusalem au début de notre ère. Ce récit, c'est pour nous aviser, c'est pour annoncer, c'est pour éclairer, pour avertir, pour enseigner, pour aider à discerner et à comprendre. Comprendre que s'accommoder d'une stabilité qui à Jérusalem a pour nom la Pax Romana, la paix romaine, cet accommodement peut sembler préférable à l'effervescence de l'espérance. Nous faire comprendre que la satisfaction d'être chez soi, finalement, à Jérusalem, avec ses rites, ses lieux, le temple, les fêtes religieuses, cela peut être bien supérieur à l'aspiration à l'existence qui est littéralement un mouvement vers l'au-delà de soi. Nous faire comprendre que le prix à payer pour la tranquillité peut être considéré comme acceptable et supportable par rapport à la conversion à la justice ou à la paix, car c'est de cela dont il est question avec le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est le garant de la justice et de la paix pour le peuple. Nous faire comprendre aussi que la foi peut s'assoupir dans un savoir, des connaissances, des traditions et le repli sur soi, au lieu de stimuler l'interprétation, la critique, l'échange et la création. Les mages apportent à Jérusalem un double présent, une bonne nouvelle et un temps nouveau, mais personne ne veut recevoir ce présent. L'installation, cette forme de stabilité en recouvert l'espérance, qui en est la mise en question de toute installation, de tout système bien établi? Les conditions, les états, les systèmes, ces équilibres-là ne sont pas vivifiants, dit l'espérance. Le bon est au-delà. La justice est autre, la paix est différente, la vérité n'est pas ce que vous tenez dans vos mains. Le point de référence de la mise en question, c'est à Jérusalem la notion de la royauté en Israël, abondamment travaillée dans la Bible hébraïque. Pour Matthieu, c'est l'Évangile. C'est ce point de vue et de compréhension qui empêche de se satisfaire de ce qui empêche le présent d'être un présent en vitalité. Même si c'est un point de vue qui n'empêche pas de reconnaître ce qui est bon et de s'en réjouir. Matthieu nous invite à suivre les mages dans son récit, dans ce que leur parcours révèle. Car si aujourd'hui c'est le dimanche de l'Épiphanie, ce qui signifie manifestation, apparition soudaine, surgissement de compréhension, eh bien il y a forcément donc de l'Apocalypse, de la révélation dans l'Épiphanie, qui nourrit, qui éclaire, qui désaltère, qui autorise, qui dynamise, qui vivifie. Et ce sont ainsi sept caractéristiques qui apparaissent dans le parcours des mages. Sept caractéristiques qui parlent de ce qu'est être vivant et être présent au monde. Ce qui est en lien, murmure Matthieu, à la venue au monde de Jésus le Christ, c'est-à-dire à une divine et créatrice volonté, parole, bonté. La première caractéristique, c'est que les mages ont d'abord ouvert les yeux, ils ont observé, ils ont scruté. En même temps, c'est leur occupation de mage, de regarder les étoiles. Mais c'est une occupation d'humain, de regarder, de s'intéresser, d'être attentif à ce qui se passe, à ce qui surgit, étoile ou autre, même aux frêles surgissements, même aux minces inattendues. La deuxième caractéristique, c'est que les mages ont interprété ce qu'ils ont vu. L'apparition de l'étoile correspond à la naissance du roi des Juifs. Mais c'est aussi une tâche d'humain d'interpréter ce qui survient et de l'interpréter dans une lumière qui fait sens pour soi, pour le monde, pour ses relations avec autrui. Et point n'est besoin d'être savant ou expert pour cela. Chacun peut s'y attacher avec les moyens qui sont les siens et surtout avec d'autres, car nous remarquons qu'il n'y a pas qu'un seul mage, mais plusieurs dans le récit de Matthieu. La troisième caractéristique, c'est ce voyage qu'entreprennent les mages. Ils ne sont pas restés indifférents et à l'écart, sous prétexte que l'événement signalé par l'étoile concernait un autre peuple que le leur. Se laisser déplacer, se mettre en quête, se sentir partie prenante de la vaste humanité, s'exposer à autrui. Voici, disent les mages, qui appartient à l'humanité de l'humain. Voici, raconte Matthieu, qui témoigne de l'évangile d'ouverture et d'accueil, l'évangile pour tous. Quatrièmement, les mages ont posé des questions à Jérusalem. Ils reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. Ils ne craignent pas d'avoir besoin d'autres savoirs, d'autres regards, d'autres compréhensions que les leurs. Chercher, c'est sortir de soi et de l'entre-soi. C'est accepter les différents, ceux qui sont différents, et puis les différents, oui, même aussi, quand on n'est pas d'accord. Chercher, c'est se relier à autrui et l'écouter. Cinquième caractéristique, en arrivant auprès de l'enfant, les mages se sont réjouis. Littéralement, le texte grec écrit « ils se réjouissent fortement d'une grande joie ». L'humanité dans l'Évangile, c'est aussi de ne pas écraser une bonne nouvelle, même sous les mauvaises nouvelles, même sous les difficultés. C'est accepter de recevoir de la joie dans l'humilité, dans la simplicité du cœur. Et la joie de trouver le Christ dans un petit enfant, c'est celle de reconnaître la vie de la vie. L'appel et la possibilité de l'existence dans une autre existence que la sienne et aussi pour la sienne propre. Et c'est ainsi que la joie véritable, la joie de l'Évangile, nous permet de vivre et d'agir avec plus de justice et plus de bonté. Sixième caractéristique, les mages ont offert leur présent. Dans la joie de l'accomplissement de leur quête signifiée par leur prosternation, ils offrent l'or, la myrrhe, l'encens. Donner ce qu'on a à donner. Donner ce que l'on a dans son trésor. Il ne s'agit pas d'être riche, mais de donner ce qui est précieux, ce qui fait sens, ce qu'on ne perd pas quand on le donne en fait. Déposer un présent, offrir le présent dans les deux sens du terme présent et dans les trois dimensions représentées par les cadeaux des mages. La vie matérielle, mais oui, l'or, parce que nous en avons besoin de cette vie matérielle et de l'assurer un minimum. Mais aussi la vie spirituelle, symbolisée par l'encens. Et puis l'espérance, symbolisée par la myrrhe. Car tout n'est pas clos, tout n'est pas achevé, tout n'est pas accompli dans ce qui est. Et ainsi, chacun peut devenir porteur de grâce, de justice, de paix, de reconnaissance, de confiance. Enfin, septième caractéristique, les mages repartent. Ils rentrent chez eux. Ils ne s'imposent pas. En fait, ils n'imposent rien. Ils rentrent par un autre chemin. Pour ne pas donner prise au jeu du pouvoir qui vise sa conservation, ni au jeu de l'installation, de l'immobilisation qui referme l'avenir. C'est ainsi que le récit de Matthieu invite à se retirer des situations de rivalité, de violence, de haine, à prendre de la distance par rapport aux spirales mortelles et destructrices de l'humanité. Et puis de toute manière, quand on a donné, quand on a reçu, quand on a éprouvé de la joie, le retour, la suite du chemin est différente parce qu'on est soi-même différent d'avoir reçu et donné. Et parce que le chemin devant soi, après avoir trouvé le Christ, n'est jamais tracé à l'avance. Tel est l'apocalypse de l'Épiphanie. Le Christ, puissance universelle de vie et de parole, se trouve quelque part où chacun peut aller et chercher et trouver avec ses moyens, à partir de là où il en est, quel que soit son chemin passé, et pour un avenir toujours ouvert. Bonne année. Voici le moment de confesser la foi de l'Église. Je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu qui, par l'Esprit et par le Christ, vient à l'humain. Alors, surmontant notre méfiance et notre découragement, nous aussi, nous voulons aller vers nos prochains et croire en eux. Nous croyons, nous aussi, en l'humain et en sa faculté de faire un choix pour sa vie. Nous croyons l'humain capable de sourire au lieu de se mettre en colère, de garder intacte son espérance même quand tout marche de travers, et de rester joyeux avec et pour les autres. Nous le croyons capable d'aimer même son ennemi, de se mettre à la place d'autrui pour le comprendre, ne pas critiquer son voisin a priori sur la couleur de sa peau, sur sa religion, ses idées politiques, ses coutumes ou sa manière de vivre. Nous le croyons capable d'oublier son propre intérêt et sa sécurité pour se préoccuper d'autrui. Nous le croyons capable de transformer ce monde de violence et de pouvoir en un monde de confiance et de solidarité. Nous croyons que l'humain en est capable. Parce que Dieu croit en l'humain, parce que son esprit monte en nous, parce que son Christ naît en nous. Amen. Voici le moment de partager des annonces. Nous prendrons tout à l'heure un peu de temps, si ce n'est pas fait, pour échanger nos vœux les uns avec les autres. Mais pour les activités de la paroisse qui reprennent dès demain, eh bien, nous aurons donc la pause biblique mardi à 12h30 à 14h, qui aura lieu par Zoom. Les habitués vont recevoir le lien demain. Si vous n'êtes pas habitué mais que vous souhaitez y participer, eh bien vous m'enverrez un message et je vous transmettrai le lien. Pour le reste de la semaine, il y aura également le JMJ le vendredi 8 de 20h à 22h. Samedi 9 de 10h30 à midi, ce sera le groupe Art et Spiritualité qui va aussi commencer à reprendre ses rencontres par le moyen de la visioconférence. Art et Spiritualité n'avait repris qu'une fois en septembre, après l'interruption à cause du confinement. Puis on s'est dit que ça durait trop, que quand même on allait essayer de se rencontrer, de se réunir et d'échanger donc avec Anne Penesco, qui nous conduit toujours dans des découvertes croisées d'œuvres littéraires et de musique. Voilà, le tout dans un d'œuvres littéraires et de musique qui ont vraiment qui touchent à la spiritualité. Donc samedi 9 à 10h30 et puis dimanche prochain à 10h30, ce sera le culte, bien sûr, et ce sera aussi caté et école biblique pour tous les groupes. Nous nous retrouverons en présence. Les groupes des enfants sont petits. Il y a suffisamment de salles pour que tous puissent se retrouver de visu et commencer l'année ensemble. Vous avez dû recevoir le bulletin du mois de janvier, l'amitié de janvier. Si vous ne l'avez pas reçu, il y en a des exemplaires disponibles sur la table au fond du temple. Un numéro tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à se dire ? Oui, Isabelle, viens.
Bonjour. C'est pour vous dire qu'il y a des galettes et que Nicole Gigliotti, notre amie Nicole, propose de faire des galettes pour dimanche prochain. Donc si jamais vous avez envie de lui en commander, vous êtes les bienvenus. Elles seront dites délicieuses, ça c'est sûr. Seulement il faut que Nicole sache que vous en ayez envie. Donc voilà, si certains sont intéressés, je vous passerai son adresse. Mais ça sera très bon.
Et puis après les galettes, mais ça commencera pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, les cultes conférences du foyer de l'âme que nous avons organisées, préparées pendant presque toute l'année dernière et dont le thème est cette année « Comment allez-vous ?». Vous avez une magnifique affiche réalisée par Isabelle sur un des piliers. Vous avez aussi des petits tracts que vous pouvez emporter. Il y aura donc quatre cultes conférences. Un premier le 17 janvier avec Françoise Bourron, qui est une historienne, qui est spécialiste de la grippe espagnole et particulièrement du traitement par la presse de la grippe espagnole. Donc elle viendra nous en parler. Le 24 janvier, nous recevrons Éric Ruff, qui est administrateur général de la Comédie française et qui viendra donc qui interviendra de son point de vue d'artiste et d'homme de culture et pour la culture, parce que où qu'on aille, on n'y va pas non plus sans culture. Le 31 janvier, ce sera Mathilde Himmer, coprésidente de Démocratie ouverte et qui a été une des organisatrices de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est tenue quelque temps passé. Elle viendra donc faire part de cette expérience où les citoyens sont allés ensemble et ont cheminé ensemble. Et puis, le dernier culte conférence, le 7 février, sera animé par les musiciens du Foyer de l'Âme. Et ce sera un culte, une conférence, basée sur les psaumes. Parce que dans les psaumes, le psalmiste dit souvent comment il va. Et parfois il va très mal. Et parfois il va très bien. Et il y a ainsi toute une palette de manières d'aller, de réponses possibles à la question « Comment allez-vous ?» dans les psaumes. Nous en choisirons quelques-unes qui seront illustrées musicalement à l'orgue par Elisabeth et Fred, et peut-être même Freddy. Voilà, donc un grand moment de musique, parce que de toute façon, au foyer de l'âme, où qu'on aille, on n'y va pas sans musique non plus. Donc n'oubliez pas de prendre des tracts. On va devoir mettre en place un système d'inscription, puisque le nombre de places est limité. Donc on va y travailler, on le fera pour chaque culte, chaque semaine précédent. Donc il faudra s'inscrire, mais on va aussi trouver la manière et le moyen d'enregistrer par vidéo ces cultes conférences qui seront mis sur le site pour tous ceux qui n'auront pas pu y participer. Évidemment, il faut s'adapter à ces conditions un peu particulières. Ce ne sera pas les cultes conférences habituelles, mais ce sera quand même bien cela. Donc, voilà, vous serez tenus au courant. Regardez sur le site pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez participer à l'un, à l'autre, à tous. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles ou des éclaircissements ? Alors, nous entrons donc dans ce moment de louange et de foi qui est le temps de l'offrande, qui permet à l'église de remplir sa mission d'église. Et pendant ce temps de l'offrande, nous allons chanter comme d'habitude et nous allons chanter le cantique qui se trouve sur la petite page Ces jours de joie. Alors je vous explique que c'est un cantique du recueil Nos cœurs te chantent, hein, c'est le numéro 171 si vous êtes intéressé. Sauf que notre ami Fred a trouvé pour ce cantique une introduction qui est une œuvre de Bach. Et puis une version qui est sur un choral de Bach. Et donc c'est cela que nous allons chanter. Ce n'est pas la version du cantique, c'est ce que vous avez sur votre feuille. Et même Freddy Eschelberger s'y est mis puisque c'est lui qui a réalisé les feuilles. Donc vous voyez, c'est une œuvre collective aussi. Merci beaucoup Fred. Donc nous commençons par écouter l'introduction. Et puis après Fred jouera comme d'habitude les premières mesures. Et puis nous commencerons à chanter. Alors, suivez bien parce qu'il n'est quand même pas très très connu ici. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, voici une année s'est achevée. Ce fut une année difficile, douloureuse. Une année comme nous n'en avions jamais connue. Nous déposons dans la prière les blessures, les douleurs de nos proches, celles qui continuent à briser des élans, des existences. Nous déposons celles que nous avons subies, afin qu'elles ne dérivent pas en amertume, en rancœur, en repli sur soi. Nous déposons dans la prière nos questions encore sans réponse, nos incertitudes, nos hésitations, nos ignorances, afin qu'elles ne nous paralysent pas. Et il est temps aussi, Éternel, de te dire merci pour ce que nous avons reçu de bon et de beau dans cette année passée, pour ce qui a été tissé d'entraide, de soutien, de réconfort, pour ce qui a été découvert, ce qui a été inventé pour faire du bien et ouvrir un chemin d'avenir. Éternel notre Dieu, nous voici au commencement d'une année nouvelle et nous savons que les épreuves ne sont pas terminées. Alors nous avons besoin de lucidité, de discernement et de courage pour poursuivre notre chemin et faire route avec d'autres, pas à pas, jour après jour. Nous te demandons un peu de sagesse afin de comprendre un peu, afin d'oser un peu. Et nous avons besoin aussi de confiance et de joie. Aide-nous à recevoir celles qui nous sont données, d'où qu'elles viennent. Et nous te demandons d'éloigner de nous toute résignation, toute idée qui nous ferait penser que tout n'est qu'un éternel recommencement. Notre Dieu, tu es la source de notre espérance, et nous voulons demeurer présents parmi nos contemporains, présents, parlants, agissant dans la lumière de l'Évangile, d'ouverture, d'accueil et de don. Et nous poursuivons notre prière, dans notre cœur ou à voix haute, avec celle que Jésus le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation chantée Le dernier spontané, et puis ensuite recevoir la bénédiction. Et pour exhortation, je vous invite à entendre ce poème de notre collègue, le pasteur Jean-Alexandre, qui est un poète magnifique. Et voici ce qu'il a récemment écrit. Tenez, dit Dieu, ce n'est pas tant l'année qui s'ouvre, mais peut-être vos yeux, peut-être vos mains, et tenez, votre cœur même, vos entrailles. Si vous m'en croyez, vous verrez, vous serez étonnés. Moi-même, je suis étonnée, dit Dieu, quand je vois la bonté et la beauté et l'amitié, l'aménité. Le mal, ça ne m'étonne pas. Ni la brutalité, ni la méchanceté, ni la cruauté. Mais la rose sur le fumier, elle m'étonne. Tenez, elle me fait pleurer. Maintenant, amis, frères et sœurs, la grâce du Seigneur vous accompagne, afin que toute votre vie en soit le reflet et le témoignage. Sans nous lasser, allons dans la lumière et dans la paix du Christ. Amen.